Et je peux demander notre frère Alain. Alain, est-ce que tu peux prier pour Pasteur Eric ce matin? Merci, Alain.
Amen. Seigneur, nous te prions, nous te bénissons parce que tu es un Dieu de gloire, Seigneur, et qu'à toi seul revient la gloire en toutes choses.
Amen.
Et je te prie pour mon frère Eric, Seigneur, que tu lui mettes tes paroles de vérité dans sa bouche, Seigneur.
Amen.
Par ton Esprit Saint,
Amen.
Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Merci, Alain.
Amen.
Seigneur, habille-nous de ta paix, de ta patience et surtout de ton amour. Veuille, Seigneur, bénir cette prédication qui nous sera donnée ce matin. Que toute parole qui sortira de la bouche d'Éric vienne de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Et pour ouvrir la prédication, ce verset qui dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean 1, verset 14.
Amen. Amen. Merci à chacun de porter dans la prière la prédication qui va vous être partagée dans des conditions qui ne sont pas inédites, puisque nous vivons à nouveau un reconfinement. Mais nous ne voulons pas occulter la gloire de l'Éternel, la présence de l'Éternel dans chaque foyer, dans chaque maison où nous nous trouvons et dans ce lieu où nous sommes avec quelques-uns. Je voulais vous parler de la gloire de l'Éternel. Donc pour Graham, le titre de cette prédication, c'est « La gloire de l'Éternel ». J'ajoute deux petits points, sa bonté, et vous allez comprendre pourquoi je dis que la gloire de l'Éternel est sa bonté. Alors, cette semaine, nous avons eu des études bibliques, une étude biblique qui a été véritablement édifiante. J'ai été touché par deux textes bibliques qui ont été lus et commentés respectivement par Michel et Graham. Et merci pour l'enseignement qui nous est donné par Graham, mais aussi par les textes, le texte d'Ésaïe qui nous a été partagé par Michel. J'ai été ce mercredi, profondément interpellé par l'enseignement qui touchait à la gloire de Dieu, et notamment par la lecture de ces deux passages extraits du livre d'Exode, chapitre 33. Alors, je vais le dire doucement pour ceux qui prennent leur Bible. Donc, vous pouvez lire et ouvrir ce passage d'Exode, chapitre 33, verset 18 au verset 20. Puis, je vous invite ensuite à lire Ésaïe 39, et Ésaïe 40, du verset 1 au verset 3. Alors, je vais commencer par la lecture d'Exode. Exode, chapitre 33, du verset 18 au verset 20. Ce passage est vraiment touchant. Le pasteur Christian, quand il a prié, a évoqué le Saint-Esprit. Et je crois que Dieu veut vraiment nous inviter à cette communion avec le Saint-Esprit. Et au-delà, cette communion intime avec celui qui est le Seigneur et Sauveur de notre vie. Et ce matin, je vous invite à incliner nos cœurs, à rechercher la face de Dieu, pour nous laisser toucher par ce que le Saint-Esprit veut dire ce matin à chacun d'entre nous. Alors lisons ce texte d'Exode, chapitre 33, du verset 18 au verset 19. Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Voilà pour le livre d'Exode. Nous pouvons maintenant ouvrir le texte d'Ésaïe, chapitre 39. Puis je vous lirai Ésaïe 40, du verset 1 au verset 3. Ésaïe 39, donc du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre. À la même époque, le roi de Babylone, Mérodac Baladan, fils de Baladan, envoya une lettre et un cadeau à Ézéchias, car il avait appris sa maladie et son rétablissement. Cela réjouit tant Ézéchias qu'il montra aux envoyés tous les endroits où étaient ses objets de valeur, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur l'ensemble de son territoire. Le prophète Ésaïe vint ensuite trouver le roi Ézéchias et lui demanda « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus pour te voir ?» Ézéchias répondit « Ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone pour me voir. » Ésaïe ajouta « Qu'ont-ils vu dans ton palais, Ézéchias ?» Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout, tout dans mes trésors. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute ceci, Ézéchias, la parole de l'Éternel, le maître de l'univers. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe. Je ne suis pas sûr qu'il ait bien compris ce que Ésaïe lui a dit. « La parole de l'Éternel que tu viens de dire est bonne. En effet, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Quel contraste avec l'avertissement prophétique que donne Ésaïe. Les lectures de ces textes vont ce matin, je crois, nous édifier. Car il ne fait pas de doute que le Seigneur entend nous enseigner et appeler chacun d'entre nous à vivre sa parole, à incarner sa parole et à la mettre en pratique. Ces textes sont, à mes yeux, fascinants. Ces deux textes d'Exode 33 et Ésaïe que nous venons de lire, 38, nous interrogent. Mais nous pouvons peut-être nous demander quel est le lien. Quel est le lien entre ces passages d'Exode et d'Ésaïe, passages des Écritures qui les rendent pour nous ce matin si édifiants, si interpellants. Et en quoi ces deux textes, qui sont finalement des textes anciens, nous concernent aujourd'hui. Alors, pour comprendre en des mots simples ce que nous avons lu, Dieu nous appelle à le manifester, à rendre visible sa bonté comme le Seigneur a rendu visible sa bonté en passant devant Moïse. Je te ferai voir ma bonté. Sa gloire ineffable qu'il a manifestée auprès de Moïse, c'est sa bonté. N'est-il pas écrit que nous-mêmes nous sommes appelés à être le sel de la terre et à manifester le sel sur cette terre, et être la lumière du monde, et être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est manifester la bonté de Dieu. C'est ainsi que nous manifestons la gloire de Dieu dans ce monde présent. Serait-il donc possible de manifester la gloire de Dieu dans ce monde qui est aujourd'hui, et personne n'est aveugle parmi ceux qui discernent les temps à venir, où les ténèbres, le mal, l'obscurité envahissent ce monde. Bien que le monde soit dans l'obscurité, bien que plein d'événements nous interrogent, la manifestation de la gloire de Dieu ne s'est pas éteinte. Et le Seigneur invite toujours à tous les hommes qui sont sur cette terre, tous les hommes et toutes les femmes, de ne pas se détourner de leur mauvaise voie, ou plutôt de se détourner de leur mauvaise voie et du chemin que chacun a emprunté, qui les détourne de la vérité. Dieu veut absolument que nous nous détournions de nos mauvaises voies et que nous retournions à la vérité. Il me semble que la pandémie agit comme un messager qui vient en quelque sorte interpeller le fort de notre conscience pour que nous revenions de tout notre être à l'Éternel. Alors revenons, si vous voulez bien, au contexte du texte d'Exode. Je vais donc parler du contexte du livre d'Exode, chapitre 33, verset 19. Du contexte d'Exode que nous avons lu précédemment. Le texte d'Exode rappelle que l'Éternel avait arraché les Hébreux à la servilité, à l'esclavage en Égypte. Le livre écrit par Moïse nous relate combien Dieu témoigna de la compassion envers un peuple meurtri, abaissé, humilié, réduit, je vais utiliser cette expression, réduit à l'animalité. Vous savez, je pense à, je ne sais pas si certains d'entre vous, ont vu ce film Mission. Mission relate un épisode de l'évangélisation de l'Amérique du Sud, où les Espagnols, à l'époque, traitaient les indigènes locaux comme des sauvages, des animaux. Et une mission plus chrétienne entendait absolument, jésuite, entendait valoriser ceux qui étaient considérés comme des animaux, comme des sauvages, en indiquant que ces personnes-là sont capables tout simplement de se tourner vers Dieu, d'avoir cette sensibilité spirituelle. Et dans cette mission jésuite, plusieurs Indiens, plusieurs indigènes se sont tournés vers le Seigneur. Et cette mission a été odieusement persécutée par les religieux de l'époque. Alors on pense, quelques millénaires plus tôt, à l'amour et à la compassion de Dieu pour le peuple hébreu qui était tenu en esclavage. Tenu en esclavage. Ce peuple, comme je l'ai dit, abaissé et humilié. Mais ce peuple hébreu, pour revenir au contexte, a oublié finalement qui les a tirés de l'enfer de l'Égypte. Dans cet oubli, il a commis, selon la déclaration de Moïse, un grand péché, une faute inexcusable aux yeux de Dieu. Souvenons-nous que Moïse était parti sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Et pendant ce temps-là, parce que Moïse était absent, le peuple, dans son impatience, est allé consulter à Aaron pour fabriquer un veau d'or et se détournait finalement du Créateur des cieux et de la terre qui les a délivrés du pays de l'Égypte. Et alors Dieu décida, je pense que vous avez lu ce texte, décida de détruire le peuple hébreu. Il décida de détruire le peuple hébreu et de faire naître une nouvelle génération au travers de Moïse, comme ce fut le cas avec Noé, quand le Seigneur éradiqua la population humaine sur la terre. De la même façon, il veut éradiquer le peuple hébreu pour faire naître au travers de Moïse une nouvelle génération de gens qu'il estimerait beaucoup plus justes, parce que Moïse avait un cœur juste. Alors on peut reprendre ce passage d'Exode 32, verset 10, où il est dit « Je les ferai disparaître, je ferai de toi, en parlant de Moïse, une grande nation. » L'Éternel parle ainsi de l'espoir qu'il mit en Moïse, celui que Dieu appelle son ami. Moïse est l'ami de Dieu. D'ailleurs, on le comprend avec les dialogues et le dialogue qu'engagea Moïse avec l'Éternel. Moïse, comme je vous l'avais déjà rappelé, était un homme épris de justice. Et le Seigneur fut attentif aux paroles d'intercession qu'exprima Moïse envers ce peuple finalement rebelle. Vous noterez au passage que Moïse va tout faire pour, dans le texte d'Exode, va tout entreprendre pour sauver ce peuple. Et l'intercession de Moïse auprès de Dieu me préfigure celle de Jésus. Vous vous souvenez de la prière de Jésus à notre endroit ? Père, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ces fautes. Autrement dit, ne les condamne pas. Moïse a eu la même intercession auprès de l'Éternel en demandant, suppliant Dieu de ne pas faire disparaître ce peuple dont Abraham avait reçu la promesse. Moïse implora l'Éternel. Nous pouvons lire au verset 11, chapitre 32, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte ?» Je vais beaucoup plus loin. « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, tu leur as dit en jurant par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » On voit la supplication de Moïse, l'amour que Moïse témoigne pour le peuple hébreu. Et Moïse a l'audace de rappeler à l'Éternel ses promesses. Vous voyez le type de relation qu'il y a entre Dieu et Moïse, la capacité que Moïse, dans son intercession, a d'incliner le cœur de Dieu. Je trouve ça, moi, fascinant. Et je pense que le Seigneur veut que nous soyons des intercesseurs pour dans les lieux où nous sommes, pour les habitants qui sont proches de nous, dans nos voisinages, que nous soyons de véritables intercesseurs. Seigneur, ne leur impute pas la faute, n'impute pas le péché. Et puis, à commencer aussi par notre Église, Seigneur, pardonne nos offenses. Dieu a entendu l'intercession, la fervente supplication, l'amour de Moïse pour son peuple. La promesse faite finalement à Abraham. Moïse ne songea absolument pas à lui-même, aux promesses qui étaient faites par Dieu de faire de lui une nouvelle nation. Donc Moïse ne prit pas en considération le fait que Dieu allait faire naître en lui une nouvelle postérité, une descendance promise par Dieu. Moïse préféra la clémence, préféra plaider la clémence, la grâce pour son peuple. La faute inexcusable commise par le peuple hébreu, comme nous le savons, résultait de son impatience, celle en effet de ne pas voir Moïse qui s'est rendu auprès de Dieu pour recevoir les lois écrites de la main de l'Éternel. Moïse précise dans le livre d'Exode que ce peuple s'est corrompu. Et ce peuple corrompu a renié Dieu. Dans Exode 32, verset 8, le peuple s'est écarté de la voie, et c'est l'Éternel qui s'exprime, que je leur ai prescrite. Ce peuple s'est écarté de celui qui les a sauvés, préférant de loin les dieux factices, des dieux artificiels. Les Hébreux étaient las d'attendre Moïse. Et ils ont préféré fabriquer un veau d'or, ils ont préféré vénérer une idole muette, une forme de dieu Baal. Le veau d'or est une forme de dieu Baal, le concurrent de Baal. Et en fait, le symbole de cette idole fabriquée, ce veau d'or, représente symboliquement l'apostasie du peuple de Dieu, l'absence de recours à tout créateur. Et finalement, ces hommes et ces femmes hébreux mettaient leur confiance dans un homme plutôt que de se mettre en confiance ou mettre leur foi dans le Créateur. Dans leur hâte, leur impatience, leur absence de confiance dans celui qui les mena dans le désert, eh bien, les Hébreux exigèrent de Aaron de se donner des dieux qui allaient marcher devant eux. Des dieux qui marcheraient devant eux. Le veau d'or qui marcherait devant eux. Mes frères et sœurs, en qui mettons-nous notre confiance? Est-ce que nous mettons notre confiance dans les bâtiments du 15 rue des Rémouleurs? Est-ce que nous mettons notre confiance dans le pasteur Eric? Non, surtout pas. Nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus. Nous sommes attachés à sa personne. Et quand bien même l'un d'entre nous devrait partir, eh bien nous devons nous attacher au Seigneur Jésus, nous attacher à sa personne. La lecture d'Exode 32, verset 23, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Je ne vous lis pas la suite, mais je vous invite à le lire chez vous, Exode 32, verset 23, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Bien, la lecture de ce verset nous renvoie à ceci. Dans une période où tout semble nous interroger, à qui nous nous attachons? Vous vous souvenez de cette prédication du pasteur Olivier? Je m'en souviens. Le pasteur Olivier nous dit, est-ce que ce sont les circonstances qui guident notre vie et la conduisent, ou bien est-ce l'Éternel que j'écoute qui est ma voix, mon chemin en qui je me confie, qui conduira mon existence? Qui conduit vos vies? Qui conduit vos vies? Qui est mon rocher? Le salut de mon âme? Est-ce que ce sont les idoles de mon quotidien qui sont le salut de mon âme? Ou est-ce celui qui marche devant moi qui est Jésus? Le chemin, la vérité et la vie. Les Hébreux, quant à eux, ont fini par renier Dieu. Ils ont préféré voir de leurs yeux plutôt que de voir par la foi. Dans les circonstances présentes, cette pandémie, tout ce que nous entendons autour de nous, ne renonçons pas à voir par la foi. Quand les Hébreux ont dit à Aaron, « Nous ignorons ce qu'il est devenu », parle de Moïse. Rappelons-nous ceci. Nous ne voyons plus Jésus. Mais que nous dit Jésus? Que dit Jésus à Thomas? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dieu nous invite à vivre par la foi et non par la vue. Il nous invite à dépendre de lui et non à dépendre de nos acquis. Non à regarder aux circonstances, aux événements douloureux qui viennent dans une vie. Les crises que traverse aujourd'hui notre humanité, et d'un sentiment d'abandon alors que Dieu est bien présent. Dieu est bien présent. Bien présent au milieu de son Église, de son assemblée qu'il chérit, qu'il aime. Le Seigneur aime son assemblée. Il aime chacun d'entre vous. Il aime vos foyers. Il aime vos maisons. Non pas ce qu'il y a à l'intérieur de vos maisons, mais dans vos maisons, c'est votre habitat dans lequel il demeure. Vous êtes le temple de son esprit. Et il chérit le temple que vous êtes. Il chérit la maison que vous êtes. Parce que vous l'avez accueilli. Parce qu'un jour, vous avez décidé d'habiter dans la maison du Seigneur. Alors, peut-être vous estimez que je suis un peu long dans le contexte, mais comprenez-moi bien, revenir sur ce contexte, nous permet de comprendre le trouble de Moïse. Nous-mêmes, nous sommes troublés par les événements que nous vivons. Moïse a été troublé par le fait que le peuple de Dieu, choisi par Dieu, se soit détourné de lui. Comprenons alors que Moïse a un besoin absolu de réassurance et à nouveau de confiance en Dieu. Nous comprenons mieux à la fois pourquoi Moïse est l'ami de Dieu, car Dieu écoute Moïse, et nous saisissons de fait beaucoup mieux la raison pour laquelle Moïse demande à l'Éternel de lui faire voir sa gloire. Moïse veut être réassuré. Il veut avoir confiance malgré le trouble. Il veut voir la gloire de Dieu. Et c'est là que l'extraordinaire va tout d'un coup surgir, faire irruption. L'extraordinaire va faire irruption dans la vie de Moïse. Moïse demande à l'Éternel de lui faire voir sa gloire. Tout ce qui fait la majesté de Dieu, sa richesse. Parce que quand on recherche le mot gloire, eh bien on trouve le mot richesse, on trouve majesté. Donc Dieu veut voir la richesse, Moïse veut voir la richesse et la gloire de Dieu. Exode, verset 18, chapitre 33, Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et l'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Mes amis, la gloire de l'Éternel, c'est sa bonté. C'est sa personne. La gloire de Dieu, c'est uniquement sa personne. Exclusivement sa personne. Nous comprenons mieux pourquoi Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Des adorateurs en esprit et en vérité, des hommes et des femmes qui recherchent et contemplent Dieu dans son intimité, le prient, le louent, l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et leur esprit. Dieu cherche des adorateurs. Donc nous adorons Dieu non pas à cause de ce qu'il nous donne, mais nous adorons Dieu à cause de la manifestation de sa bonté envers nous. Nous adorons sa personne. La bonté, la présence de Dieu, la personne de Dieu sont la manifestation de sa gloire. La bonté, la présence de Dieu, la personne de Dieu sont la manifestation de sa gloire. L'homme se glorifie de ce qu'il possède, à l'image du roi Ézéchias, qui omet le motif de la venue des envoyés du roi de Babylone. Le roi de Babylone veut en effet s'enquérir de la santé du roi Ézéchias. Souvenons-nous, pour ceux qui avaient lu ce texte dans Ésaïe, dans le livre des Chroniques, que le roi Ézéchias avait été atteint d'une maladie mortelle. Ézéchias devait mourir. Ézéchias se mit à intercéder, à prier et à supplier Dieu pour être guéri. Et il fut en effet miraculeusement guéri, totalement rétabli. Dieu ajouta 15 années à la vie d'Ézéchias. L'Éternel lui a fait grâce en lui ajoutant Après sa prière émouvante, après la prière émouvante, la supplication d'Ézéchias lui ajouta des années de vie. Et lorsque le roi de Babylone envoya ses émissaires pour s'enquérir de la santé, du roi Ézéchias, bien le roi Ézéchias, au lieu d'adorer Dieu auprès de ses envoyés, au lieu d'exprimer sa reconnaissance, de glorifier l'Éternel qui est intervenu en sa faveur, d'évoquer auprès des envoyés finalement le miracle et les prodiges, parce que Dieu fit des prodiges devant le roi Ézéchias, des prodiges de l'ordre du cosmos. Et je vous y invite à regarder dans les détails ce qui s'est produit. Bien, au lieu de relater tout ce que Dieu a fait en sa faveur, de glorifier, de rendre gloire à Dieu, Ézéchias prit la peine d'exposer les biens de son palais, d'étaler ses richesses, sa fortune, auprès des envoyés de Mérodac Baladan, le roi de Babylone. Voilà, je fais l'étalage de mes biens, de ce que je possède. Quel contraste, mes amis, avec l'attitude de l'Éternel. Dieu, au travers de Jésus, est doux et humble de cœur. Quel contraste. L'Éternel ne montre pas à Moïse l'étendue de sa création, ne lui fait pas visiter l'infiniment petit, l'infiniment grand, en disant « Regarde ce que j'ai créé, voilà ma gloire !» L'emmenant peut-être à voyager dans l'espace de l'infini, dans l'univers. Dieu ne lui montre pas l'étendue de ses œuvres. Non, l'Éternel passe devant Moïse et lui montre l'étendue de sa bonté, l'étendue de son amour. Moïse comprit alors, comme nous devons le comprendre à cet instant où nous écoutons sa parole, Exode 34, verset 6, que l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Au fond, ce que Dieu veut révéler, ce n'est pas le comment et le pourquoi des choses qu'il a créées. Donc Dieu n'est pas venu, et dans la Bible, vous ne trouverez aucun élément pour montrer que la terre a été créée en 6 jours. Il n'y a rien qui nous le dit. Mais Dieu veut révéler que ce n'est pas le comment et le pourquoi des choses qu'il a créées, mais de nous dire combien Dieu nous aime. Et que la façon pour nous de le manifester, de manifester son existence, c'est de manifester autour de nous sa bonté. C'est ainsi que nous montrons la gloire de Dieu dans ce monde. Nous montrons la gloire de Dieu dans ce monde en manifestant la bonté de Dieu. Ézéchias, lui, omis de manifester la gloire de Dieu, c'est-à-dire sa compassion, la compassion de l'Éternel. Et nous comprenons ceci, mes frères et sœurs, qu'il sera difficile à ceux qui se confient dans leur richesse, dans leur bien, d'entrer dans le royaume de Dieu. Je vous cite Marc, chapitre 10, verset 24. L'Église a une mission. Et cette mission n'est pas achevée, n'est pas terminée. Malgré la pandémie, malgré la peste, notre mission, c'est de parler de Dieu, c'est de parler de la bonté de Dieu, c'est de manifester sa présence autour de nous. Pourquoi j'insiste tant sur ce point? Eh bien, mes amis, j'ai été bouleversé cette semaine, bouleversé. J'ai été bouleversé par une nouvelle, celle d'une paroisse à Reims, l'église Saint-André, dont le prêtre Stéphane partagea qu'il fut conduit à célébrer 5 enterrements fin octobre de cette année. 5 enterrements en 2 semaines. 5 paroissiens qui se sont suicidés, dont 2 mamans. Une maman qui avait 6 enfants, moins de 40 ans. et un papa et une autre maman de 3 enfants. 5 deuils qui ont traversé cette église, cette paroisse, qui est l'une des plus actives, l'une des plus dynamiques, l'une des plus rayonnantes de Reims, l'une des plus évangéliques. 5 suicides en l'espace de 2 semaines. Le prêtre a été bouleversé, profondément ému. Et il a dit ceci, la nécessité de mettre en pratique la fraternité. Et cet fait que je vous rapporte ne concerne pas la paroisse catholique, parce que ces faits se sont produits ailleurs, y compris dans des églises évangéliques. Dans d'autres assemblées, dans d'autres églises. Quand ces drames, ces tragédies se produisent, c'est parce que la communauté oublie de pratiquer la bonté de l'Éternel, oublie l'écoute de l'autre, l'écoute du prochain, de venir en aide à des âmes qui sont en détresse. Pendant cette période, n'oublions pas de venir en aide aux âmes qui sont en détresse. Je ne parle pas pour moi, je parle pour nous tous. Nous sommes tous concernés. Manifester la gloire de Dieu, c'est manifester autour de nous sa bonté. Notre fraternité auprès de tous, notre volonté de secourir nos bien-aimés, sans exclusion. Et lorsque nous prenons soin de nos frères et sœurs, lorsque nous prenons de leurs nouvelles, cela nous a été rappelé au début de notre culte. Faisons-le avec un cœur qui est rempli de bonté, de bienveillance. N'ayons pas d'autre sentiment dans notre cœur que celui de manifester la bonté de Dieu, la bienveillance. Soyons présents aux autres, mes frères et sœurs. C'est ainsi, en étant présents aux autres, que nous manifestons en vérité la gloire de Dieu, la bonté de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa bonté envers le pécheur, envers ceux qui sont en détresse, envers ceux qui n'ont plus rien et qui crient le secours de l'Éternel. Cette période de confinement, elle est redoutable. Que Dieu vous mette à cœur d'appeler cette semaine 5 frères ou sœurs. C'est symbolique. Si vous appelez un frère ou une sœur, ça sera déjà très bien. Appelez donc un frère ou une sœur pour vous enquérir de ses besoins et d'être présent pour lui. Manifester la gloire de Dieu est résumé dans le texte de Luc, et cela sera ma conclusion. Luc chapitre 6, du verset 27 au verset 36. Et Jésus nous proclame ceci. Et c'est Jésus qui nous parle. Je vous dis, vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, ça fait rire Vérane, parce que c'est ce qu'elle a dit Pascal tout à l'heure. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mes frères et sœurs, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Je n'ai aucune difficulté à aimer mon épouse. Aucune difficulté à aimer Pascal. Mais si nous aimons ceux qui nous aiment, ça ne nous différencie pas du monde, parce que le monde sait aussi faire la même chose. Et comme le dit Jésus, les pécheurs aussi agissent de la même façon. les pécheurs aussi prêtes aux pécheurs, afin de recevoir la même chose. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Alors, moi, je sais qu'il y a des frères qui ont prêté et qui attendaient un retour, mais qui n'ont rien reçu et ils l'ont remis à Dieu, et je trouve ça formidable de leur part qu'il l'ait fait. Parce que ta récompense, mon frère, sera grande. Et tu seras appelé fils du Très-Haut. Car il est bon pour ceux qui sont des ingrats et pour les méchants. Mes frères et sœurs, soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Alors de tout mon cœur, je suis attaché à l'Éternel, attaché au Seigneur. Et je sais que j'ai encore à grandir en lui. Mais je demande à l'Éternel de pardonner mes offenses comme il me pardonne et comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Amen.